La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
I came from Eritrea, I came from Massawa.
Je viens d'Érythrée, de Massawa.
I grew up in Massawa.
J'ai grandi à Massawa, une grande ville portuaire sur la mer du Nord. J'ai grandi là-bas avec mes parents. Mon père était pêcheur. Parfois, j'allais avec lui. Nous allions pêcher sur les îles d'Alak. Et le reste du temps, j'étais en classe, à l'école primaire. On apprenait un peu d'anglais, un peu de tigrinya, un peu d'arabe. J'aimais jouer avec mes amis au football. Nous allions à la plage, à Korkoussoum. Korkoussoum est un endroit particulièrement beau à Massawa pour aller nager. Le dimanche, nous allions toujours là-bas avec les amis. J'adorais ça.
Au son de sa chanson préférée, Souleymane regarde les paysages virtuels de son enfance, des photographies des îles d'Alak et de la ville de Massawa, deuxième port de l'Érythrée sur la mer Rouge, au nord-est de la capitale, Asmara. Souleymane s'est réfugié en Europe, car les jeunes Érythréens n'ont pas le choix. Enrôlés dans un service militaire permanent, ils doivent obéir ou partir. Comme des milliers d'autres jeunes, Souleymane a fini par fuir son pays, traverser la Méditerranée, se retrouver aujourd'hui en France, où il a obtenu le statut de réfugié politique. Mais que fuient ces évadés de leur propre nation? Pourquoi sont-ils si nombreux à se déclarer sans avenir en Érythrée? Érythrée, l'école de la terreur, c'est un documentaire de la marche du monde proposé par Agathe Charnay et Amaury Auchard.
La première chose que nous faisions en arrivant à l'école le matin, c'est de nous mettre en rang devant le professeur et devant le drapeau. Si nous voulions entrer en classe, nous devions hisser ce drapeau en chantant l'hymne national. Après ça seulement, on pouvait entrer en cours. L'après-midi, lorsque nous finissions l'école, il fallait descendre le drapeau. Pas question de le laisser comme ça.
Et pourtant, il y a un peu plus de 20 ans, tous les espoirs étaient permis dans la jeune Érythrée indépendante, considérée comme un modèle éducatif dans la corne de l'Afrique. Comment l'Érythrée a-t-elle transformé son système scolaire en instrument de domination des corps et des esprits?
Nous avions une matière appelée civisme. Le civisme, c'était nous enseigner la culture et l'histoire de l'Érythrée. Nous avions cours environ 3 fois par semaine. Nous avons appris beaucoup de choses dans cette classe.
24 mai 1993, l'Érythrée fête son indépendance après 30 ans de guerre contre l'Éthiopie, considérée comme une puissance colonisatrice. Le pays est exsangue, mais très fier de sa victoire mythique, celle d'un petit peuple martyr, vainqueur de la plus puissante armée d'Afrique.
C'est à minuit précise, au moment où un maquisard hisse en haut d'un mât le drapeau national, que la joie populaire éclate dans la capitale, si puissante que les clameurs de la foule couvrent par instant les roulements du feu d'artifice qui illumine le ciel d'Asmara. Les combattants comme les civils tombent dans les bras les uns des autres, le visage ému aux larmes. Un instant attendu depuis très longtemps, un rêve de 30 ans devient réalité. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens, dit ce vieil employé des postes dont la famille a payé un lourd tribut à la guerre de libération. En ce jour de fête, les martyrs sont à l'honneur. Anna Simone, 12 ans de guérilla, a perdu ses deux frères sur le front.
De voir le drapeau érythréen haut, je me suis sentie vraiment que j'ai vraiment un pays maintenant.
Tu as pensé à quoi, à qui à ce moment-là?
J'ai pensé surtout aux martyrs qu'on a payés.
Maintenant tu vas danser?
Oui, bien sûr.
Mais il faut penser maintenant à l'avenir de l'Érythrée. C'était le thème commun à tous les discours officiels des cérémonies d'indépendance et les appels à la générosité, à la solidarité internationale n'ont pas manqué. Gagner la bataille du développement après celle de l'indépendance sera le nouveau défi des Érythréens. Jean-Hélène, Asmara, RFI.
Dans la joie de l'indépendance, l'école devient toute logique le terreau du nouvel État-nation dont la jeunesse porte tous les espoirs. Jennifer Regan est historienne de l'éducation et auteure de la thèse « L'État combattant, le nationalisme, la militarisation de masse et l'éducation en Érythrée ».
In schools, there was a lot of content in the history curriculum, in the English curriculum.
À l'école, il y avait beaucoup de contenu dans les programmes d'histoire ou d'anglais à propos de l'histoire de l'Érythrée, comme cela peut être attendu de tout système scolaire. Ils parlaient du combat pour l'indépendance, de la période fédérale et de l'annexion par l'Éthiopie. Le cursus en anglais en particulier faisait la promotion des valeurs nationales. Il y avait beaucoup de cours à propos des combats et de ce que c'est que d'être érythréen, de ce que le Parti national avait introduit en matière de réforme pour améliorer le pays. Donc, le système scolaire faisait la promotion des valeurs nationales. Mais c'est ce qu'on pouvait attendre d'un pays qui vient d'obtenir son indépendance.
Par exemple, on apprenait quand l'armée du Front de Libération pour l'Érythrée avait débuté son combat de 1960 à 1991. Pourquoi il avait été fondé, comment, par qui, c'est ce que nous apprenions. Et on a appris l'hymne national qu'il a écrit et quand. C'était le nationalisme.
David Bodini est anthropologue et auteur de la thèse « En état de siège, ethnographie de la mobilisation nationale et de la surveillance en Érythrée ». Il a voulu comprendre quel était le rôle de l'éducation nationale dans la construction de l'État-nation en Érythrée.
Alors, se met en place assez rapidement, tout un appareil médiatique de propagande nationaliste qui met en avant les valeurs érythréennes comme des valeurs martiales ou les valeurs martiales comme des valeurs érythréennes hein, qui sont directement reprises au travers du héros combattant. Mais il y a aussi tout un culte des martyrs, donc des combattants qui sont tombés au combat, où on érige des cimetières et un culte qui se fait au mois de juin chaque année. Et ça s'est mis en place assez rapidement en Érythrée. Je pense qu'une des intentions du régime, c'est d'éviter qu'un contre-pouvoir se mette en place en Érythrée et donc réduire le bagage scolaire des étudiants, les mobiliser pour une période indéterminée au service sans qu'ils aient le choix de faire ce qu'ils font et de se développer personnellement. C'est clairement une intention du régime, non pas de ne pas laisser de liberté individuelle, mais plutôt, il faut prendre la chose dans l'autre sens, d'éviter vraiment tout contre-pouvoir qui soit élitiste, qui soit intellectuel ou qui soit écorporatiste en Érythrée.
Si un étudiant fait une remarque, on lui dit « tu vas être renvoyé de l'école et envoyé chez les militaires ». On n'avait pas le droit de poser des questions, de s'interroger sur la situation politique. On nous disait « ça ne te concerne pas, tu es un étudiant, tu dois uniquement penser à tes études ». Tu ne dois pas interrompre les gens et poser des questions. À cause de ça, nous étions terrifiés.
Après quelques années d'une paix fragile, les frères ennemis que sont l'Éthiopie et l'Érythrée entrent de nouveau en guerre en 1998. En relais de force, des milliers de jeunes Érythréens trouvent la mort dans un conflit qui dure 2 ans et dont on ne connaît toujours pas le nombre exact de victimes. L'école devient alors l'antichambre du front.
Quand nous étions au lycée, il y avait la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La plupart des jeunes allaient dans l'armée et on enrôlait aussi de force des jeunes étudiants de notre lycée. De toute façon, il n'y avait pas assez de professeurs. L'état d'esprit des gens n'était pas bon également. Ce n'était pas qu'une guerre sur le front, c'était aussi une guerre psychologique pour nous.
It was a bad time.
Du coup, c'était une mauvaise période. Oui, je me souviens d'étudiants qui ont été enlevés dans notre lycée. Ils avaient entre 18 et 20 ans. C'était de bons étudiants, vraiment. Les militaires venaient le matin, ils appelaient tous les étudiants par leur nom. Il les prenait pour les emmener dans l'armée. C'était des jours horribles, vraiment. Certains sont morts au front. Certains ont quitté le pays.
Par exemple,
je me souviens d'Adam.
Adam, his name is Adam, and he take it from class.
Ils l'ont pris dans notre classe.
He died in,
il est mort au front.
In war.
Tué par les Éthiopiens à la guerre.
Comment continuer à souffrir en silence quand toute une génération se sent sacrifiée? La contestation s'organise, notamment à l'université d'Asmara, garante de la vie intellectuelle et politique du pays. Et des voix s'élèvent contre l'intransigeance du gouvernement d'Isaias Afewerki. Mais à l'été 2001, les étudiants contestataires sont raflés et envoyés dans des camps militaires. Au mois de septembre, une série de purges dans le milieu journalistique et politique s'opère. Moins de 10 ans après son indépendance, l'Érythrée bascule.
Il y a une remise en question du pouvoir d'Isaias Afewerki et de ses colonels et du militaire en général, quand les gens, en fait, reconnaissent une certaine défaite militaire et ensuite surtout quand il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent dans le parti et à l'extérieur du parti et qui demandent des comptes à Isaias sur des stratégies militaires qu'il a prises pendant la guerre. Et là, il y a, disons, un premier jalon qui tombe de la légitimité d'Isaias Afewerki dans sa gestion de cette crise.
Pour établir cette légitimité, le régime renforce sa propagande en exaltant le patriotisme au cœur du système scolaire. La figure du combattant est omniprésente, on l'appelle le Warsai Yekalo.
Les Warsai, si vous traduisez directement, Warsai, ça veut dire être un receveur. Les Yekalo, ce sont des gens qui ont fait la guerre de 1961 à 1991. Un Warsai reçoit leur message, leur doctrine qui est que tu dois sacrifier ta vie pour la nation et la construction de la nation. Être un Warsai, c'est jouer un rôle clé dans la nation. Quand un étudiant quitte l'école, on l'appelle le Warsai. Je me souviens qu'un ex-étudiant était venu à Sawa. Tout le monde disait, quand tu quittes l'école, tu deviens un Warsai. Tu deviens ce receveur devant les gens.
Se met en place en 2002 la campagne Warsai Yekalo.
David Bodzini.
Qui en fait généralise ce terme non pas seulement aux jeunes érythréens qui ont participé à la guerre, mais à toutes les personnes qui rentrent et qui sont intégrées dans le service national. Et se met en place en fait cette propagande qui s'appelle la campagne Warsai Yekalo, qui est une campagne de reconstruction du pays à la fin de la guerre et qui va mobiliser toutes les ressources du pays pour former les nouvelles générations et les cadrer dans une idéologie qui remonte à la période de guérilla avant l'indépendance érythréenne. Et cette campagne va se développer autant au niveau de la construction des infrastructures que l'éducation. Donc toutes les branches économiques et sociales de la société érythréenne va, si je peux me utiliser ce mot qui n'est pas très heureux, bénéficier ou utiliser et exploiter les ressources des gens qui sont mobilisés au service national pour une période permanente.
Je ne voulais pas être un Warsai. Au départ, être un Warsai, c'était apprendre l'histoire, se sacrifier pour la liberté, les droits de l'homme. Ça, c'était bien. Mais ce n'était pas la réalité. Et à cause de ça, je n'étais pas heureux.
Pour accroître son autorité, le gouvernement resserre l'étau sur les Warsai et crée une 12e année d'études obligatoires, pas dans une école, mais dans un camp militaire, à Sawa, ancien camp d'entraînement et base militaire pendant la guerre Érythrée-Éthiopie. Jennifer Reagan.
Après la guerre, en 2003, le gouvernement a institué une réforme de l'éducation qui a beaucoup changé la façon dont les gens considéraient le système éducatif. Une des composantes de cette réforme était l'introduction du niveau 12 au système scolaire. Lors de cette année supplémentaire, tous les élèves étaient amenés à Sawa pour finir la 12e année d'études. Dans tout le pays, chaque élève qui voulait finir le lycée devait se rendre à Sawa pour valider la 12e année. L'entraînement militaire avait lieu au début et à la fin du niveau. Les étudiants devaient donc recevoir un entraînement militaire avant et après le service national.
Lors de l'été 2007, le jeune Souleyman doit quitter sa famille du nord de l'Érythrée. Il est convoqué au camp militaire de Sawa.
Lorsque vous arrivez au camp de Sawa, il y a une grande porte avec écrit « Bienvenue au centre militaire de Sawa ». Et quand vous entrez dans le camp, vous voyez beaucoup de militaires, tout ce qui se rapporte au système militaire. Ils nous font descendre des bus, rang par rang, et on nous mélange avec les autres. Ils mélangent les gens des différentes régions. Par exemple, ceux qui viennent d'Assap, de Keren, d'Arordet, des différentes parties du pays. Ils nous mélangent. Il ne fallait pas dormir. Il fallait se lever à 5 ou 6 heures du matin pour l'entraînement. Ils nous disaient, vous devez devenir fort. Vous ne devez pas prendre de médicaments. C'est mauvais pour vous. Et pour tenir, faites du sport, entraînez-vous. Ils nous donnaient aussi des kalachnikovs. Au début, 100 balles à l'intérieur. Et puis on nous apprend à les utiliser. Dans la journée, après les cours, on apprend à se servir d'une arme, comment l'ouvrir, comment tirer. C'était une longue période, 2 mois sans repos. La plupart des étudiants étaient malades, la diarrhée ou ce genre de choses. C'était très dur, surtout pour les femmes. Et puis, petit à petit, on s'habitue. On allait dans la montagne pour tirer sur des cibles. On revenait l'après-midi et on s'entraînait à marcher au pas avec une kalachnikov. Et le dimanche, il n'y avait jamais de repos. On partait cultiver les champs et on travaillait dans les jardins des militaires. Il fallait marcher 10 km pour y aller et 10 km pour revenir.
We work there, take 10 kilometers to go and to come back 20 kilometers.
Mais qu'apprend-on vraiment à Sawa? Comment s'adapter au régime militaire imposé par le camp? C'est ce qu'a voulu comprendre l'anthropologue David Bodzini.
Sawa est l'endroit où on apprend à jouer avec le régime, à savoir comment se comporter en face de militaires, en face d'une autorité étatique assez répressive, assez arbitraire. Et donc, c'est au travers du contact avec les militaires dans ce camp, mais aussi avec contact avec les enseignants qui enseignent cette 12e année, que les gens se forment. Et c'est assez paradoxal parce que toute l'idée derrière Sawa était de créer cet énorme camp en Érythrée pour pouvoir mélanger les ethnies et faire en sorte que les Érythréens se retrouvent dans l'unité des baraques militaires, construisent cette identité nationale au travers du service militaire et du service national. Or, ce qui se passe plus que peut-être cette unité ethnique, c'est une unité dans l'expérience de la répression du régime.
C'est ainsi que l'éducation militarisée ne laisse aucun espoir aux jeunes Érythréens de décider pour leur avenir. Mais ce que le régime dictatorial d'Isaias Afewerki n'avait pas prévu, c'est que l'expérience de la répression rend adulte et forge chez certains une volonté de faire, celle de fuir le régime à tout prix. Érythrée, l'école de la terreur, c'est à suivre dans la marche du monde.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Érythrée. إريتريا دحرت بكيزهم أعدائها وتوجت بالنصر تضحياتها.
L'Érythrée, c'était comme ma mère. C'était comme ma mère, car j'avais un fort sentiment patriotique. L'Érythrée, c'est mon pays, mon nom. À cette époque, c'était tout pour moi.
Suite de l'histoire de Souleymane dans La Marche du Monde, jeune érythréen réfugié politique en France. Il nous raconte son parcours du combattant au cœur du système éducatif de l'Érythrée, l'un des pays les plus fermés au monde. Un système que l'on pourrait comparer au mythe grec du Minotaure, car chaque année, des générations entières de jeunes gens sont sacrifiées, envoyées dans une école labyrinthe et condamnées à affronter un système militaire monstrueux. Érythrée, l'école de la terreur, c'est un documentaire de La Marche du Monde, écrit par Agathe Charnay et Amaury Auchard. Nous retrouvons Souleymane à sa sortie du camp militaire de Sawa, où il a achevé ses études secondaires. Après avoir été reçu à l'examen national, il est autorisé à poursuivre ses études, mais selon le plan d'orientation du ministère de l'Éducation.
When I graduated from the Sawa Military Center, I was 23 years old.
Quand j'ai été diplômé de Sawa, j'avais 23 ans. À la fin de l'année, ils nous ont dit « Vos résultats seront affichés devant vos classes ». J'ai cherché mon nom et c'est un ami qui l'a vu et il m'a félicité. « Tu as eu une très bonne note ». J'étais très content à ce moment et je me suis vite demandé ce que j'allais faire maintenant. Ils nous ont dit que les étudiants qui avaient le plus de points pourraient aller postuler lorsque les gens du ministère de l'Éducation viendraient nous voir à Sawa, qu'ils nous donneraient des informations sur les universités où nous pourrions étudier les matières qui nous intéressaient.
L'anthropologue suisse David Bozzini a étudié comment fonctionne le système de mobilisation nationale en Érythrée.
Alors les opportunités qui s'offrent, si on peut parler en ces termes, dans le cas de l'Érythrée, qui s'offrent aux recrues érythréennes qui finissent leur entraînement militaire à Sawa, sont assez réduites en fait. Elles tiennent en quelques possibilités qui échappent complètement au choix et aux volontés de ces jeunes érythréens. Donc ils peuvent être soit directement engagés en tant que soldats dans l'armée, ou bien être engagés comme soldats et travailler dans les entreprises du parti. Ils peuvent poursuivre leur formation dans les collèges à Maïnefi et ensuite dans les collèges qui sont mis en place quelques années plus tard. D'autres vont être assignés au service civil et donc vont travailler au sein de l'administration, dans les ministères, dans les branches du parti local ou dans les municipalités, mais tout en continuant d'être assigné au service national.
Le ministre est venu et nous a présenté les matières qu'on pouvait étudier. J'ai choisi les sciences sociales. C'était à Menefi, à côté d'Asmara. Menefi, c'est le plus grand collège technique, avec d'autres départements aussi, pas seulement les sciences sociales.
En 1994, Isaias Afewerki vient chercher du soutien à Paris. La légende vivante de la lutte armée du FPLE, le Front Populaire de Libération de l'Érythrée, a pris la direction du pays après l'avoir mené à l'indépendance. Isaias est un maoïste et porte alors les espoirs de tout un peuple.
Pour nous, la question des partis politiques n'est pas liée à la Constitution. Vous pouvez voir que dans la Constitution des États-Unis, on ne parle pas de partis politiques. Cela ne veut pas forcément dire que nous n'acceptons pas le multipartisme en Érythrée. Déjà, nous sommes en train de rédiger la loi sur la presse, ce que nous pensons être la base de toute activité multipartite dans le pays. Ce qui est sûr, c'est qu'une loi sur les partis suivra et elle donnera la possibilité à des partis d'opposition d'être actifs pendant la période de transition. Nous mettons l'accent sur les institutions d'État où nous pourrons avoir un parlement élu un exécutif responsable devant les institutions et un système judiciaire indépendant. Nous estimons que ce sont là les piliers d'une nation et d'une démocratie. C'est dans ce contexte qu'on peut parler de multipartisme, de liberté de la presse, d'autres lois fondamentales qui garantissent les droits de chaque citoyen dans notre pays.
Would allow and guarantee the freedom of every citizen in the country.
Mais en moins de 10 ans, Isaias Afewerki se transforme en tyran et en 2001, il boucle les frontières du pays, ferme les entreprises non étatiques, interdit les médias et élimine ses opposants. L'élite intellectuelle est éradiquée par la fermeture de l'université d'Asmara. David Bodini assiste à son démantèlement.
En fait, quand je suis arrivé en 2003, j'ai pris contact avec l'université d'Asmara. Et à ce moment-là, c'est l'été, il n'y a plus de cours. Et c'est à ce moment-là, donc au même moment où pratiquement où il y a cette annonce des nombres de victimes de la guerre, que la communauté universitaire érythréenne d'Asmara découvre avec stupeur que à la rentrée, il n'y aura pas de nouveaux étudiants à l'université. Et il y a une énorme déception, une peur et toute une série en fait de élucubrations à demi-mot qui se met en place pour essayer de comprendre quel est l'avenir de l'université. Et quand je reviens en Érythrée début 2005, tout est joué. Il n'y a pas eu de rentrée 2003, il n'y a pas eu de rentrée 2004, hein, et donc j'arrive au dernier semestre de l'université d'Asmara qui attend que ses derniers étudiants terminent leurs examens finaux pour fermer ses portes. Et ça arrive en septembre 2005 dans une grande confusion où au moment de la fermeture de l'université, les gens ne savent pas où ils vont être, ne savent pas s'ils vont continuer à enseigner, ne savent pas s'ils vont continuer à être à la tête d'un secrétariat, d'un département, ou bien même que va devenir la bibliothèque de l'université, où est-ce qu'elle va être transférée et comment.
Dans le régime totalitaire d'Isaias Afewerki, la seule et unique université du pays n'a pas sa place. L'enseignement est au service de l'armée, dont les étudiants sont les soldats. Jennifer Regan, spécialiste de l'éducation en Érythrée.
So in 2003, in 2002, they began dismantling the University of Asmara.
En 2002-2003, ils ont commencé à démanteler l'université d'Asmara en acceptant plus de nouveaux étudiants. Donc c'était une suppression progressive de l'université. Et dans le même temps, ils ont annoncé l'ouverture de 7 nouveaux collèges techniques régionaux. Le premier Meninéfing a été ouvert en 2002. Donc ils supprimaient l'université et c'était traumatisant pour les gens parce que l'université représentait pour eux les valeurs de l'éducation supérieure. Elle était établie de longue date, les gens y croyaient, ils s'y reconnaissaient. Et puis, le régime a introduit ses collèges techniques. C'est moins académique, il y a plus de technique, et ça a été très décourageant pour les gens. Ils n'ont pas vraiment cru que le niveau de l'éducation pourrait être aussi haut dans ces collèges techniques qu'il ne l'était à l'université.
Mes collègues érythréens qui enseignaient déjà voyaient ça comme une grave infraction à la liberté académique, à leur liberté d'être à l'université d'Asmara et d'enseigner à l'université. Il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de ces enseignants, de ces professeurs à l'université d'Asmara qui étaient eux-mêmes des combattants pendant la guerre d'indépendance et qui ont volontairement fui le mouvement pour aller suivre une éducation à l'étranger et qui ont dû, en quelque sorte, faire leurs excuses publiques avant de revenir ou après juste être revenu en Érythrée, d'avoir laissé tomber le mouvement pour favoriser leur propre éducation, mais dans un but justement de revenir avec ce projet pédagogique pour la nouvelle Érythrée qui voyait en quelque sorte périr sous leurs yeux.
The official goal of the regime in doing so was...
Le but officiel du régime, en fermant l'université, était de faire un système éducatif plus pragmatique, à apprendre aux élèves à avoir des talents manuels plutôt qu'intellectuels. Il y avait beaucoup de dédain envers l'enseignement intellectuel ou académique. Le régime érythréen croyait en quelque chose de plus pragmatique, qui donnerait plus de compétences techniques ou de business. C'est la raison officielle. Mais il est important de savoir que le gouvernement avait des problèmes avec les étudiants de l'université. On m'a raconté que les étudiants se plaignaient que le président allait à toutes les cérémonies de Sawa et pas à celle d'Asmara. Et il y avait toutes ces tensions entre le président et les combattants d'une part et les gens éduqués de l'autre. Il n'y a jamais eu beaucoup de respect pour les gens éduqués.
Isaias Afewerki impose par la violence sa vision d'une société utopique. Formé à la guérilla en Chine, admirateur de la révolution culturelle maoïste, il désigne les intellectuels comme des ennemis du régime. Cette haine de la vie universitaire, Suleyman l'affronte de plein fouet. Il n'a aucun choix. Son avenir appartient à l'État.
J'avais 27 ans quand j'ai été diplômé de mes néphis. On m'a dit de devenir enseignant. J'étais triste parce que je ne voulais pas devenir professeur. Moi, je voulais continuer la sociologie et étudier dans d'autres domaines. Mais malheureusement, c'était une obligation. J'ai eu 7 jours de vacances avec ma famille. Et puis Salina, une de mes collègues, m'a dit que j'étais assigné au ministère de l'Éducation. Elle avait vu mon nom sur la liste. Et ça s'est passé comme ça. Je me souviens de la première fois quand je suis allé à l'école en tant que professeur. Je me souviens, je me posais la question, comment je peux enseigner? Qu'est-ce que je peux enseigner? Moi, je voulais étudier. Je ne sais rien de la pédagogie, comment faire une leçon, comment interagir avec les étudiants, ce genre de choses. Le superviseur est venu. Il me demande de montrer ce que je sais faire. Je lui montre. Alors il m'a demandé, mais vous enseignez comme vous le voulez, vous ne suivez pas les règles. Comment ça se fait? Je lui ai répondu que personne ne m'avait montré. Alors j'essaie d'aider les étudiants comme je le peux. Je n'étais pas heureux là-bas. À ce moment-là, j'enseignais l'histoire et la géographie. Il m'a encouragé et il m'a dit « Tu vas t'adapter petit à petit ». Et je me suis adapté.
On voit que progressivement,
David Bodini,
le système éducatif se réduit, se limite, se simplifie pour faire en sorte que les étudiants arrivent le plus rapidement possible à Sawa pour faire leur entraînement et bien sûr pour intégrer le service national. Pour avoir discuté avec un certain nombre d'enseignants quand j'étais en Érythrée, ils n'arrivaient plus vraiment à voir leur rôle d'enseignant pédagogue, mais qui voyaient simplement de plus en plus se rétrécir les demandes de l'éducation nationale et que finalement ils étaient là que pour mettre des notes suffisantes pour que les étudiants passent à l'année suivante.
Il est certain que je ne pouvais pas me sentir bien. Comment aurais-je pu me sentir bien? Les étudiants pouvaient voir sur mon visage que je n'étais pas bien. Même si je ne leur disais rien à propos de la guerre et du pays, ils pouvaient tout comprendre sur mon visage. J'étais fatigué, je n'étais pas heureux. Donc, ça affectait aussi les étudiants. C'est impossible d'enseigner quand vous êtes dans cet état.
« Encadrés et militarisés par leur système éducatif, les jeunes érythréens doivent renoncer à leurs aspirations personnelles et rentrer dans le rang, sans aucune possibilité de s'exprimer, de discuter et encore moins de contester. Mais chaque année, le résultat, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à tenter de sortir de leur pays devenu prison.
Pour les Érythréens qui sont astreints au service national, il n'y a que deux grandes options qui s'offrent à eux, soit d'obéir et de rester au service national dans l'espoir de pouvoir faire carrière dans l'administration ou au sein de la hiérarchie militaire, ou bien fuir. C'est l'autre option qui s'offre à eux. Et dans les deux cas, le régime est, je dirais, gagnant, puisque d'une part, elle exploite sa population massivement en Érythrée, et sinon, bénéficie des envois d'argent de la diaspora à leur famille.
People Eritreans recognize that if they can't do well,
Jennifer Regan,
on their examinations and get into one of these regional colleges,
les gens, les Érythréens, se disent que s'ils n'arrivent pas à être très bons aux examens de fin d'année de SAWA et à aller à ces collèges techniques, ils finiront dans le secteur militaire et ils y resteront toute leur vie. Donc énormément d'étudiants partent avant même de passer cet examen parce qu'ils ne veulent pas être bloqués dans un service à durée indéterminée. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent qu'ils n'ont que très peu d'opportunités.
Eritrea has now introduced people's militias, which are basically a way to get people involved in.
L'Érythrée a un nouveau système. C'est un moyen d'impliquer les gens encore plus dans ce système, de les faire travailler pour le régime, même quand ils ne sont plus dans le service national. Et ça, ça pèse beaucoup, je pense. J'ai eu des conversations avec des gens très éduqués qui devaient avoir une arme chez eux, faire du gardiennage, toujours être en service. Donc, les gens partent, ils n'en peuvent plus.
People who left the country at that point because they couldn't stomach the continual control of the government and the continual control of the military apparatus.
Pour Souleymane, devenu jeune enseignant au sein du système qui l'a contraint, la situation se dégrade progressivement. Obligé d'exercer un métier qu'il n'a pas choisi, il doit également poursuivre sa formation militaire.
En 2013, ils ont amené des Kalachnikovs dans l'école où j'enseignais et nous ont dit d'en prendre une sans aucune formation. On leur demandait « Mais pourquoi vous nous donnez des Kalachnikovs ?» Et ils nous répondaient « Tu n'as pas le droit de demander. Tu dois prendre des cours militaires. Ce sont les ordres du gouvernement. Tu dois faire tout ce que nous voulons. Tu dois tout accepter. C'est une obligation. Si on te demande de travailler la nuit, tu dis oui. Si on te dit d'aller dans l'armée, tu obéis. C'est comme ça. » Donc, j'ai amené la Kalachnikov chez moi. Et ma famille ne comprenait pas. Pourquoi tu amènes ce genre de choses chez nous ? Au début, on se dit, peut-être qu'il y a une guerre avec l'Éthiopie et qu'il manque de soldats. C'est pour ça qu'ils nous donnent des armes. Mais tout le monde nous disait qu'il n'y avait pas de problème. Même aux frontières, il n'y avait pas de conflit. Par la suite, ils nous ont ordonné de venir s'entraîner le dimanche au maniement des armes. Donc il y avait un militaire à l'école qui faisait l'appel pour vérifier notre présence. Et plus tard, il a fallu venir aussi le soir. On se demandait toujours pourquoi. Mais tu n'avais pas le choix, tu devais venir. Donc le jour, j'étais avec mes étudiants et le soir, je venais m'entraîner.
Like the security in the night time.
Comme pour des milliers d'autres jeunes de sa génération, l'étau du système éducatif érythréen s'est refermé sur Souleymane. Un piège auquel il n'a pas pu échapper et qu'il a finalement condamné à quitter son pays, la peur au ventre. Une peur partagée par tous les réfugiés croisés dans cette enquête, persuadés d'être surveillés et terrifiés par le sort réservé par le régime à leur famille. C'est pourquoi le témoignage de Souleymane est si rare.
À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas d'avenir à Massawa, parce qu'ils allaient réduire mon salaire. Ils allaient m'arrêter si je faisais quelque chose, me mettre dans une prison. Je savais qu'ils allaient me forcer à travailler avec les militaires dans un autre endroit. Donc je ne voulais pas rester à Massawa plus longtemps. À cause de ça, malheureusement, j'ai décidé de partir. J'aime l'Érythrée. Je rêve de liberté. Mais tant que ce gouvernement est là, à Asmara, je ne reviendrai pas. Mais si ça change, évidemment, j'espère rentrer un jour.
Comment le régime érythréen peut-il expliquer la désertion massive de sa jeunesse? Une question à laquelle il est difficile de répondre puisque la presse n'est pas bienvenue en Érythrée et que les responsables de son régime ne répondent pas aux médias. Néanmoins, RFI a obtenu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Ousmane Saleh. C'était en juin 2016, au micro de Anthony Latier.
Good morning, Ousmane Saleh.
Good morning.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi des centaines de jeunes Érythréens quittent votre pays?
This is first of all, it is highly politicized and polarized.
Tout d'abord, c'est une affaire hautement politisée et polarisée. Les chiffres de ceux qui fuient sont complètement gonflés parce que l'Europe donne systématiquement l'asile politique seulement aux Érythréens.
So many Ethiopians, Somalis and others.
Beaucoup de Somaliens, d'Éthiopiens et d'autres quittent leur pays en disant « nous sommes Érythréens ». D'autres Érythréens partent parce qu'ils veulent travailler.
Il n'y a pas de travail en Érythrée ?
Vous savez, il y a des sanctions contre l'Érythrée.
Non, il y a un embargo sur les armes, mais il n'y a pas de sanctions économiques.
Non, il y a indirectement des sanctions économiques sur l'Érythrée. L'Érythrée n'a pas la possibilité d'acheter des pièces détachées pour ses machines pour son programme de développement. Et dans le même temps, nous ne pouvons pas percevoir la taxe de 2% sur la diaspora. Certains pays l'ont déjà interdit, donc il y a bien des sanctions économiques directes et indirectes.
En 2016, une commission d'enquête des Nations Unies a accusé votre gouvernement de commettre des crimes contre l'humanité. Ne pensez-vous pas qu'il y a un lien entre cette conclusion et le fait que tant de gens fuient votre pays?
They say that there is an indefinite national service, but national service is not indefinite.
Vous savez, ils disent qu'il y a un service militaire à durée indéfinie, mais ça n'est pas vrai. Beaucoup de jeunes gens ont été démobilisés, environ 100 000.
Those who are demobilized are the ones who are leaving the country.
Ceux qui partent du pays sont ceux qui sont démobilisés. Et le service national n'est pas indéfini. Mais pour une certaine durée, au-delà de 18 mois, les jeunes sont gardés à disposition. Parce que les Éthiopiens mènent constamment des incursions sur notre territoire. Il nous est indispensable d'avoir ce service national.
Donc vous admettez que tout le monde est mobilisable tout le temps?
Non, tout le monde n'est pas mobilisable, mais il y a beaucoup d'incursions, c'est permanent, et ce service national, c'est pour la construction de la nation.
Selon l'ONU, 400 000 personnes sont réduites en esclavage, et je cite, à cause de ce service national.
This is not acceptable.
Cette affirmation n'est pas acceptable.
D'après l'ONU encore, des Érythréens sont régulièrement et arbitrairement arrêtés, détenus et torturés. Certains disparaissent ou sont exécutés. Combien existe-t-il de centres de détention en Érythrée ?
Nous n'avons aucun centre de détention. Les enquêteurs de cette commission ne sont jamais venus en Érythrée.
En même temps, vous ne leur avez pas accordé de visa.
Nous ne leur en donnerons pas. Parce que c'est un panel qui est constitué de manière partisane. Parce que nous participons déjà au processus onusien de l'examen périodique universel et je pense que nous collaborons bien avec l'ONU et l'Union européenne. Et c'est suffisant.
Érythrée, l'école de la terreur. C'était un documentaire de la Marche du Monde écrit par Amaury Auchard et Agathe Charnay et réalisé par Sophie Janin avec la collaboration d'Anthony Latier et les voix de François Porcheron et Sébastien Gédor. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de la Marche du Monde, podcastée. Cette émission, c'est la vôtre.